en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peut-on faire confiance aux historiens? C'est le thème principal de travail de l'Académie des sciences morales et politiques définie pour l'année 2005. Une année de travail qui se décline tous les lundis en séance publique avec la communication proposée, présentée par un membre de l'Institut ou une personnalité extérieure. Et le lundi 10 janvier 2005, c'est Monsieur Gabriel De Breuil de l'Académie française qui est venu présenter devant le public et devant ses confrères également de l'Académie des sciences morales et politiques une communication sur Guizot.
Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, honoraire, mes chers confrères, c'est une tâche redoutable que d'évoquer un historien aussi complet et aussi important que Guizot devant la compagnie la plus érudite et qui a entendu dans le passé les éloges de Guizot par Jules Simon à la mort de celui-ci et au centenaire de sa mort par Pierre Clarac en 1974, sans parler des hommages qui ont été rendus à Guizot à l'Académie française et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont il était également membre. Alors, comme il n'est pas concevable de l'avoir relu l'ensemble des ouvrages historiques de Guizot, surtout en cette période de l'année, ni de posséder le talent de nos prédécesseurs, seul le recul du temps et les travaux récents me permettront peut-être de brosser un portrait sous une vue globale du personnage, mais sous l'angle de l'historien. Mais auparavant, en effet, je rappellerai pour commencer que Guizot est le refondateur plutôt que restaurateur, car elle n'était pas une académie précédemment, de notre académie. Nous savons tout sur les décisions qui, en 1795, ont créé la deuxième classe de l'Institut sous le nom des sciences morales et politiques. En 1803, on supprimé cette classe. En 1816, refusé de la rétablir, et en 1832, sur la proposition de Guizot, ministre de l'Instruction publique, créé l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons lu le détail dans la présentation qu'en a faite Henri Amouroux dans le livre « Histoire des cinq académies » paru en 1995, mais présentation après celle de Charles Lyon-Caen, d'Émile Mirault, du baron Sellière et de Jules Simon. Ce qui mérite peut-être un mot de commentaire maintenant, c'est l'appellation de sciences morales et politiques et les variations au cours des âges de la notion que recouvre cette dénomination. C'est Condorcet, le premier, qui, dans son discours de réception à l'Académie française en 1782, faisant en tant que mathématicien l'éloge des sciences, pose en pendant des sciences physiques les sciences morales. Je le cite, « Presque toutes nées de nos jours, dont l'objet est l'homme même, qui doivent suivre les mêmes méthodes que les premières, acquérir une langue également exacte et précise, atteindre au même degré de certitude. » Puis, en 1792, le chantier de la Révolution étant engagé, le même Condorcet proclame « Les sciences morales et politiques, cette fois-ci, c'est les deux, ne doivent pas être séparées et on n'a pas dû les confondre avec d'autres. » Mirabeau, lui, avait parlé des sciences philosophiques dans son premier projet de création de l'Institut. Et l'abbé Grégoire et Daunoux reprennent l'appellation de Condorcet de 92 et la convention renversée, le directoire, crée la deuxième classe de l'Institut sous le nom des sciences morales et politiques. La notion de sciences morales et politiques est donc directement héritée de la philosophie des Lumières. Après l'accident de la Terreur, la politique sort du domaine des passions et peut entrer dans l'âge scientifique. Différentes disciplines permettront de fonder scientifiquement la marche de la société et d'éviter les conflits. La psychologie sociale, la législation, l'économie politique. Ce sont des sciences Et même pour mieux marquer l'ampleur de la transformation, c'est une science que certains désignent déjà comme la mathématique sociale. Le premier consul n'a pas exactement supprimé les sciences morales et politiques. Issu lui-même de la philosophie des Lumières et membre de l'Institut, il a, dans une réorganisation plus vaste, fait de 3 classes, dont les sciences morales et politiques, 4 classes sans les sciences morales et politiques. Vaste réorganisation qui permettait de répartir les membres de l'ancienne 2e classe entre les 4 nouvelles. L'objectif est bien clair, il s'agit de disperser les idéologues, c'est-à-dire un foyer d'opposition à son pouvoir personnel qu'anime Volney, La Révélière Lepeau, l'abbé Grégoire, Dupont de Nemours, Garat, tous nos anciens confrères. Et l'opération politique est en même temps, évidemment, une négation du concept même de sciences morales et politiques. Il faut noter que la restauration n'a pas restauré. Et pour les mêmes raisons, politique d'abord, il y a parmi les anciens membres de la 2e classe des régicides, et philosophiques et politiques ensuite, sous la monarchie restaurée, légitime, comme sous un régime autoritaire, il n'y a pas une discipline regroupant les sciences morales et politiques. Ce n'est précisément pas l'avis des libéraux et des doctrinaires sous la Restauration. En 1819, d'anciens membres de la 2e classe tentent de se réunir autour de Roederer. Guizot, de son côté, crée une société privée des sciences morales et politiques de 30 membres. On y trouve Royer-Collard, Victor de Broglie, Destutt de Tracy, de Gérandeau, Roederer, Langevinet, Benjamin Constant, Volney. Et parvenu au pouvoir, il propose en 1832 à Louis-Philippe de rétablir l'ancienne classe sous le nom d'Académie. L'appellation n'est pas changée, mais la notion n'est plus la même. Il s'agit, je le cite, de réunir des hommes remarquables en différents domaines, la philosophie, le droit public, l'histoire générale, l'économie, qui, sans eux, resterait sans lien. Il s'agit de créer une sociabilité intellectuelle et savante sur laquelle le régime de Juillet puisse s'appuyer. Une réunion des notabilités du juste milieu. Il est à peine question de science dans le projet de 1832, mais de raison, de politique rationnelle, si l'on veut, destinée à conjurer les menaces toujours présentes de l'autoritarisme, de la révolution, du socialisme. Il n'est plus question, en tout cas, d'une science de la société. Parmi les sections, par exemple, on en trouve une d'administration, qui n'est pas une discipline scientifique. Mais on ne trouve plus la géographie, qui est renvoyée aux sciences, à l'Académie des sciences, et qui pourtant est une discipline scientifique. Et en économie politique, la simple statistique a remplacé l'idéal de la mathématique sociale. Les enquêtes sociales, en effet, apparaissent comme l'un des moyens d'améliorer la conscience de la société. La nouvelle Académie, nous le savons, s'y lance avec conviction. Mais bientôt, ces enquêtes deviennent des armes aux mains des réformateurs utopistes ou simplement des médecins hygiénistes, et en tout cas suscite la méfiance des anciens doctrinaires. L'économie politique paraît moins périlleuse à celle-ci que la statistique. Et Guizot, devenu chef du gouvernement, convainc son académie d'y renoncer et d'accorder finalement plus d'importance aux idées qu'aux chiffres. Louis-Philippe avait d'ailleurs accueilli le projet de Guizot en marquant les limites. Je cite Louis-Philippe, « Cette académie sera très utile » pourvu qu'elle ne soit pas trop pressée de se faire écouter et qu'ailleurs on ne fasse pas trop de bruit. L'appellation de sciences morales et politiques ne sera désormais plus mise en cause, ni par le Second Empire, ni par la République. Mais le concept n'a-t-il pas évolué ? Dans les années 1960, on a avancé celui des sciences humaines, avec souvent un présupposé matérialiste. Pour notre Académie, une telle appellation ne correspondrait pas à un élargissement de son champ de vision, mais à un rétrécissement. Alors, des sciences morales de Condorcet aux sciences humaines d'aujourd'hui, devons-nous nous interroger encore sur notre appellation et sur le sens de cette « et » qui relie les sciences morales et politique. Est-il cumulatif ou alternatif? Pas tout à fait l'un, pas tout à fait l'autre. À mes yeux, le sens cumulatif prédomine. Mais gardons-nous en tout cas de modifier une appellation consolidée par la tradition et dont nous savons, nous, ce qu'elle recouvre. Un certain pragmatisme dans les méthodes, une très grande ouverture d'esprit et une haute ambition dans les objectifs. Toute la carrière de Guizot est marquée par une tension entre l'historien et le gouvernant. Je vais tenter de donner un rapide portrait du personnage avant de proposer ma réponse à la question « Faut-il faire confiance à l'historien ?» Guizot a occupé la scène pendant 62 années, une scène imprégnée d'une histoire dont il a tour à tour donné les leçons et les exemples. Son portrait ne peut être que cinétique, il est successivement l'historien avant le pouvoir, l'historien au pouvoir et l'historien après le pouvoir. De 1812 à 1830, sa fulgurante carrière de professeur a donné les plus beaux moments de la chaire, du grand amphithéâtre de la Sorbonne où se succédaient Guizot, Cousin, Villemain, et que rappellent les grandes fresques du vestibule du premier étage. Mais cette carrière a été interrompue à trois reprises par la politique. En 1812, Guizot a 25 ans. Avec dispense d'âge, de formation germaniste et littéraire, mais ne possédant aucun diplôme, il entre presque fortuitement à l'université par le sommet, en qualité de premier titulaire de la chaire d'histoire moderne. Fontane le choisit pour lutter contre l'irréligion et équilibrer l'influence des disciples des philosophes. Il jouit d'une réputation dans les cercles intellectuels, mais il n'a pas fait d'études d'histoire, qu'il va apprendre en même temps qu'il l'enseignera. Ses adversaires prétendront qu'il choisit, pour masquer ses lacunes, le sujet le plus général qui soit, l'histoire de la civilisation depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la période moderne. Mais dès sa leçon inaugurale, on assiste à la naissance d'une nouvelle discipline, d'une nouvelle école historique, que l'on a proprement appelée l'école philosophique, par opposition à l'école narrative, représentée par Thiers et Migniet. On devrait dire plutôt école théoricienne, fondant sur des sources nombreuses, nouvelles et contrôlées, une théorie de l'évolution sociale de la période considérée. En 1814, la Restauration l'arrache à l'université, lui confie des fonctions dans les ministères. En 1820, la chute de la Restauration libérale le renvoie à l'université. Son deuxième cours a pour sujet l'histoire du gouvernement représentatif en Europe. Ce cours est très politique et sert de prétexte à des attaques contre le gouvernement. Son auteur est suspendu en 1822 et se retrouve sans traitement, obligé de gagner sa vie par des publications diverses. C'est alors qu'il ouvre les chantiers qui occuperont toute sa vie. L'histoire de la civilisation, l'histoire de France avec les essais sur l'histoire de France et la collection des mémoires relatifs à l'histoire de France qui compte 30 volumes. Et troisième chantier, l'histoire de la Révolution d'Angleterre. Elle aussi très politique à l'époque, puisqu'elle est destinée à prôner la substitution dynastique qui délivrera pacifiquement la France de la monarchie absolutiste de la branche aînée. Il s'agit d'une histoire narrative qui s'appuie elle aussi sur l'étonnante collection des mémoires relatifs à la Révolution d'Angleterre, 25 volumes, dont personne ne sait comment Guizot, qui n'est jamais alors allé en Angleterre, a pu les réunir et les traduire avec une sûreté qui fait aujourd'hui encore l'admiration des historiens anglais. En 1828, Guizot est rétabli dans sa chaire. Il reprend son cours sur l'histoire de la civilisation en Europe et l'année suivante en France. Et c'est alors un immense succès. L'éloquence irrésistible, la pensée ferme, l'érudition illimitée, la force démonstrative transportent l'auditoire. Les auditeurs sont invités à étudier les faits avant le cours. Si bien que le cours n'est pas proprement un cours d'histoire, mais un cours de philosophie à propos de l'histoire, qui évoque les évolutions lentes des premiers siècles, démontre la complexité des causes, replace l'homme dans la société pour analyser la marche de l'humanité dans cette période confuse, démontre le mécanisme du progrès de la civilisation. À travers le mélange des races, la révolution communale, la féodalité, c'est une vieille France que l'Antiquité et le classicisme avaient fait oublier, qui réapparaît comme un romantisme qui serait à la fois une renaissance. Ces trois années d'enseignement marquent le sommet de l'art et de la renommée de Guizot, historien. Goethe fait éloge de sa profondeur et de sa pénétration. Tocqueville ne manque pas une leçon. Montalembert et Sainte-Beuve sont ses auditeurs. Guizot dit sobrement « C'est une époque de ma vie et peut-être aussi une époque d'influence dans mon pays ». Ces années marquent aussi l'accession du professorat au rang de puissance sociale. 1830 est la victoire des historiens. La politique va enlever à l'histoire Guizot, Thiers, Villemain, Cousin, Barante. Pendant les 18 années suivantes, Guizot est au pouvoir. La période se divise en deux. Avant 1840, il est ministre. Après, il est le chef du gouvernement. Dans les deux cas, il campe la figure la plus haute de l'historien au pouvoir. Au ministère de l'Instruction publique, qu'il occupe de 1832 à 1837, avec 7 mois d'intervalle, il est non seulement historien-ministre, mais le ministre de l'Histoire, et il met en œuvre une politique de l'Histoire. Dès la période précédente, il avait repris à son compte la démarche du comité des chartes de Moreau à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en l'élargissant et en publiant en quelques années, comme je l'ai dit, 56 volumes de documents historiques. En 1833, il fonde à titre privé la Société de l'Histoire de France, avec ses amis Fauriel, Vitet, Thiers, Champollion, Figeac, Mollet, Pasquier. Ils furent bientôt plusieurs centaines et publièrent 71 volumes de documents inédits. Mais il appartenait au gouvernement de coordonner, d'inspirer et de financer un tel projet. Il crée donc, le 31 décembre 1833, avec les mêmes auxquels il adjoint Quinet, Michelet et Augustin Thierry, le comité des travaux historiques, avec pour mission, je cite, « de publier tous les matériaux importants et encore inédits de notre histoire nationale ». Projet d'une ambition prodigieuse et d'une portée politique évidente, élargir le champ de la recherche et donc de la conscience historique aux dépôts qui existent partout dans les régions, les départements, les villes, les tribunaux, les professions, c'est élargir l'histoire au monde civil, religieux, moral, scientifique, littéraire. Ainsi ne traitera-t-elle plus seulement des batailles et des traités, mais des idées, des usages, des mœurs, des rites. L'impulsion qui a été donnée l'a été définitivement, elle a eu des effets d'entraînement heureux. Les villes et les départements se sont intéressés à leurs archives et à leur passé. L'activité intellectuelle est revenue en province. Les sociétés savantes d'histoire, d'archéologie, d'antiquaire ont connu un essor remarquable. La politique historique de Guizot ne se limite pas à la publication des archives, ni même à leur conservation et à l'organisation de la recherche. Guizot a rétabli l'histoire dans l'enseignement primaire et secondaire. Il a le premier, d'ailleurs, dégagé la notion de corps enseignant et lui a reconnu, sous l'autorité de l'État, la dignité et l'indépendance d'un corps intermédiaire. Il a créé la Commission des arts et des monuments, qui est l'ancêtre de l'inventaire général des richesses artistiques de la France. Il a fondé la Commission des monuments historiques et les inspecteurs des monuments historiques, dont les premiers furent Vitet et Mérimée, avec pour tâche la description du patrimoine archéologique autant que la restauration des monuments. Guizot a apporté son concours au projet de Louis-Philippe de créer à Versailles le musée de l'histoire de France. Il a créé plus tard l'école française d'Athènes, il a réformé l'enseignement de l'école des chartes et il a animé personnellement jusqu'en 1848 le comité des travaux historiques. Le rétablissement de l'Académie des sciences morales et politiques s'inscrit naturellement dans cette conception d'ensemble. Après 1840, comme chef du gouvernement, l'identification est moins évidente. Ou plutôt, elle laisse apparaître, du point de vue qui nous occupe, qui est celui du rapport entre le gouvernant et l'histoire, une dissociation surprenante entre la politique étrangère et la politique intérieure. En politique étrangère, Guizot définit la diplomatie de la France nouvelle, conformément à sa vocation séculaire et en son intérêt actuel. Affirmation dynastique, manifestée par un souci constant du protocole, si important en cette matière, et par l'ambition familiale, conduite jusqu'au bord d'une crise européenne lors des mariages espagnols. L'autre trait de cette diplomatie, c'est un renversement spectaculaire des alliances au profit de la seule monarchie parlementaire, l'Angleterre, qui a été la première à reconnaître la dynastie de Juillet, avec la liquidation des contentieux et la proclamation de l'entente cordiale entre les deux souverains. La diplomatie de Guizot, c'est enfin le refus de l'aventurisme, du bellicisme hérité de l'Empire et repris par Thiers, au profit d'une politique d'équilibre, de paix et de prospérité. Les leçons de l'histoire, proches et lointaines, sont partout présentes dans ses choix. La politique intérieure menée par Guizot paraît plus crispée, ponctuée de crises et de batailles parlementaires, et finalement réduite à une résistance à la réforme, à un refus du changement, qui paraît en définitive le contraire des leçons de l'histoire. Sans doute, la mort accidentelle du duc d'Orléans en 1842 et la jeunesse de l'héritier de la couronne ont enfermé le roi vieillissant et son ministre dans un immobilisme qui se voulait conservateur pour la dynastie et qui s'est révélé socialement explosif. La révolution de 1848 s'est faite en partie au cri de « Abat Guizot », ce qui est le signe au moins d'une incompréhension, d'une rupture avec l'opinion et d'un échec du gouvernement devant l'histoire. Mais Guizot ne reconnaîtra jamais avoir échoué. Il lui reste 26 années à vivre, une seconde et très féconde carrière d'historien, après le pouvoir. Il n'y aura pas de retour en politique, plus d'enseignement, mais des publications nombreuses et une influence considérable sur les esprits et sur l'opinion. Guizot va reprendre ses grands chantiers. Il réédite et complète ses ouvrages précédents sur l'histoire de la civilisation. Il prolonge par 4 volumes l'histoire de la Révolution d'Angleterre. Mais sans aller pourtant jusqu'à son terme en 1688, il s'arrête en 1660 et donne un essai pour conclure très éclairant « Pourquoi la Révolution d'Angleterre a-t-elle réussi » sous-entendu « et pas la Révolution en France ». Mais il n'achève pas ce grand travail de la Révolution d'Angleterre, et c'est qu'il se consacre à un autre, la rédaction de ses mémoires, des mémoires d'État en 8 volumes qui sont une autre forme d'ouvrage d'histoire. Il le complète par le recueil de ses discours parlementaires en 5 volumes, plus un volume de discours académiques, voilà qui s'appelle « Mettre ses papiers en ordre ». Il restait à Guizot à ouvrir un autre chantier, celui de l'histoire de France. Il le fit par un ouvrage qui ne connut pas la carrière qu'il méritait, je veux dire la carrière intellectuelle, car sa carrière éditoriale fut brillante. C'est l'histoire de France racontée à mes petits-enfants. 5 gros volumes in quarto, illustrés et richement reliés, qui ont meublé les bibliothèques des familles pendant des générations. C'est une histoire racontée et non une analyse structurale, encore moins une philosophie. On y trouve des tableaux majestueux, attendus. L'auteur insiste sur les origines, réhabilite le Moyen-Âge, donne le récit de la formation de la nation française. La partie la plus originale est l'histoire de la réforme en France. L'auteur est là dans son sujet et sa peinture de la Renaissance est très personnelle. Non moins originale est la place donnée au jansénisme, sa comparaison avec le protestantisme et le tableau brossé du XVIIe siècle en relation avec la Révolution d'Angleterre. Il réhabilite globalement le grand siècle, mais c'est pour mieux critiquer le XVIIIe et la philosophie des Lumières. À travers tout le livre court le refus d'un cadre trop hexagonal pour raconter l'histoire de France. Son propos est essentiellement narratif et didactique. L'histoire de France est essentiellement l'histoire de l'apparition de cet élément central et original de la nation française, le tiers-État. C'est l'histoire de la bourgeoisie. Ce sera le dernier ouvrage de Guizot, sa conclusion d'historien en quelque sorte. Et notre conclusion de son portrait d'historien, essayons de le caractériser à travers son œuvre. L'œuvre écrite est considérable, plus de 90 volumes, admirable dans sa forme, dans sa méthode, dans son inspiration, mais elle est foisonnante. Aucune de ses parties n'est achevée et elle ne contient pas un grand livre qui la résumerait toute. D'autre part, les livres d'histoire ne sont qu'une partie de l'œuvre de l'écrivain, à quoi il faut ajouter 30 autres volumes de doctrine politique, de spiritualité, les discours et surtout l'immense correspondance qui est peut-être son plus beau titre littéraire. Ajoutons qu'à l'œuvre écrite s'ajoute ajoutons la création des institutions, l'animation des recherches et l'influence à travers toutes sortes de sociétés et les académies. Enfin, l'historien Guizot est inséparable de l'homme d'État et son œuvre écrite de son action, sa pensée de son combat. Et ses caractères rendent délicate la réponse qu'il convient de tenter maintenant de donner à la question « Peut-on faire confiance à l'historien Guizot ?» Je tenterai de le faire en trois temps. Peut-on faire confiance à l'historien Guizot pour écrire l'histoire ? Assurément. Guizot possède à mes yeux une antériorité et une primauté parmi les historiens du XIXe siècle. Il est l'aîné et il est le maître. Il a montré une virtuosité dans tous les registres de l'activité historienne, de la haute philosophie à la simple correspondance. Une inlassable activité, une hauteur de vue et de ton, une fermeté de la pensée et surtout une remarquable méthode pour faire progresser la connaissance, pondérer les influences, vérifier les sources, dégager les explications et une intuition pour atteindre la vérité en dehors de toute position partisane. Guizot ne montre pas, il ne peint pas, il démontre, il explique parce qu'il sait l'histoire. Mais il faut aussi marquer ses limites. Il est essentiellement l'historien des institutions, des régimes politiques. Il est moins que Michelet l'historien de la France intégrale. Ses sources se limitent le plus souvent à l'imprimé. Il néglige les inscriptions, les monnaies, les monuments, la langue même, et surtout la géographie. C'est Guizot qui oppose les deux méthodes. L'analyse, qui est seule scientifique, et la synthèse, qui est traditionnelle, et tend à recréer, c'est-à-dire, selon lui, à créer la légende ou des chimères. La première méthode est la sienne, la seconde, celle de Michelet, qu'il critique comme prétendant à une résurrection intégrale du passé, mais aboutissant, selon le Guizot, à une violente chimie morale. Par ses travaux accomplis avant 1830, Guizot a contribué à dégager l'histoire de la rhétorique, de la propagande, de la littérature et à faire triompher l'histoire érudite et, disons-le, scientifique. Il est le moins romantique des historiens du premier XIXe siècle, qui le sont tous à des degrés divers, comme Augustin Thierry et Michelet. Il a fait entrer dans l'histoire plus de vérité et Michelet plus de sentiments. Peut-on ensuite lui faire confiance dans sa tentative d'explication en tant que doctrinaire ? Pour ma part, je réponds oui encore, bien que nous entrions ici dans le débat et même le combat d'idées. Les doctrinaires forment le groupe des royalistes libéraux sous la Restauration qui refusent à la fois la Révolution et le retour à l'Ancien Régime. Sur toute question, ils partent d'une analyse savante, historique et philosophique. Puis ils dégagent les questions théoriques qui se posent et enfin, seulement, définissent une solution rationnelle. Solution qu'ils défendent avec hauteur et dogmatisme. Guizot est leur inspirateur. Il a essentiellement voulu donner une interprétation de son temps, prévenir le retour à l'Ancien Régime, sous la Restauration, mais aussi le retour des secousses de la Révolution, et construire, à partir de là, la France nouvelle. L'ambition du doctrinaire est de parvenir à ce que, je le cite, « la société soit gouvernée par le maniement des esprits et non plus par le bouleversement des existences ». Mieux connaître la société pour la gouverner plus sûrement Tel est le rôle que s'assigne l'historien doctrinaire qui ne séparera jamais de la pensée la politique, la théorie de la pratique. Il y parvient par sa conception primordiale de la durée qui le conduit à rechercher la persistance de l'ancien dans la nouveauté ou mieux encore à discerner parmi les choses qui bougent ce qui ne bouge pas et parmi les choses qui ne bougent pas ce qui bouge. Notre confrère René Raymond avait relu en 1974 les mémoires de Guizot pour savoir s'il s'y trouvait une explication de l'histoire. Il y décelait des tendances lourdes. La première est que l'histoire proche a obéi à des nécessités, à des enchaînements qui sont différents des épisodes ou des accidents de l'histoire. Le mot de nécessité revient constamment sous la plume de Guizot. Cette nécessité est supérieure, mais elle reste cachée. Et il semble que seuls ceux qui détiennent les commandes du pouvoir peuvent la connaître. Une deuxième tendance est un progrès continu de ce que Guizot appelle le sentiment général et qui n'est pas encore l'opinion publique, mais qui prend de la force et dont l'accord est nécessaire pour que la volonté du pouvoir se traduise dans la réalité des faits. Une troisième tendance est la sécularisation du monde, la séparation de la science et de la foi, l'émancipation de l'intelligence dont l'État moderne est le résultat. Existe-t-il chez Guizot une philosophie de l'histoire ? Je ne le pense pas. Il n'est pas assez spéculatif, trop homme d'action pour cela. Mais il a une vision du progrès de la civilisation qui se détache de la succession des faits, qui plane au-dessus de la vie des peuples et des nations et qui serait comme l'âme de l'humanité. Et le paradis de cette âme, c'est la liberté. En réalité, Guizot a surtout cherché à faire l'éducation politique de son temps. La partie la plus vivante de son œuvre de doctrinaire, qui est essentielle à son époque et à la pensée politique de tous les temps, s'applique à la source de la souveraineté et à son aménagement. Il place cette origine non dans le monarque, qu'il soit de droit divin ou autre, ni dans le peuple, mais dans la raison. Et il l'aménage par le gouvernement représentatif, c'est-à-dire le régime parlementaire limité par le sens électoral qui assure seul le règne de la raison en conciliant liberté et pouvoir. On touche ici les limites de cette conception générale. Elle néglige l'économie. Elle ignore le mouvement démocratique. Elle minimise le jeu des intérêts matériels. Bien que Guizot ait été parfois invoqué par les marxistes comme l'inventeur de la notion de classe sociale, il fait profession d'idéalisme, c'est l'idée qui gouverne le monde, et à travers elle, ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Si la doctrine de Guizot a eu un tel retentissement, c'est qu'elle est indissociable de sa carrière politique, et inversement, que sa stature d'homme d'État est indissociable de sa réputation d'historien. Peut-on donc faire confiance aux gouvernants ? Jules Simon a dit qu'il était le plus philosophe des politiques et le plus politique des philosophes. Son double effort, je le cite Guizot, de perfectionner la doctrine par l'étude des faits contemporains et de soumettre les faits contemporains à sa doctrine, a-t-elle été couronnée de succès ? On a vu les limites de la doctrine. On ne peut que constater l'échec final du gouvernant. Dans ses mémoires, il résume son action à la tête du gouvernement, la résistance, la paix, les classes moyennes. Au moment d'opposer la résistance aux revendications réformatrices, les classes moyennes lui ont manqué. La force du doctrinaire, c'est en principe le refus de s'adapter aux circonstances au nom de la doctrine. C'est précisément ce refus qui perdit le gouvernant. Comment expliquer une telle incompréhension ? Au moment fatidique, en 1847 et 1848, le sujet de l'affrontement est le plus aisé à surmonter. L'élargissement du droit de suffrage, comme conséquence du développement de l'instruction qui a Guizot pour auteur, et de la montée des classes moyennes. Et Guizot se refuse à toute conception, à une époque où l'Angleterre abaisse progressivement le sens électoral. Il y a plusieurs raisons à cela. Le pouvoir solitaire, la soumission au roi. Guizot reste en effet un homme de la monarchie, un homme d'État auprès du monarque, et n'imaginant pas une seconde d'empiéter sur ses prérogatives. Mais la raison profonde est autre. Elle est que, c'est celle du doctrinaire, elle est que ce qui compte dans une telle crise, ce n'est pas l'étendue de la concession, c'est de savoir à qui elle est faite, qui l'a arrachée. La réforme électorale est demandée par les Républicains. Or, avant 1848, les Républicains, ce sont les ennemis de toujours. Ce sont ceux qui veulent renverser la société comme ils l'ont fait en 1792. Pour Guizot, la réforme électorale, c'est le retour de la démocratie de 1793. Louis XVI avait fait des concessions, lui n'en fera pas. Et c'est le moment de rappeler qu'il est le fils d'un guillotiné, comme Louis-Philippe. Il est hanté par l'échec de la première révolution et le retour des violences, le bouleversement des existences, précisément. D'où cette erreur de perception, relevée par Tocqueville à propos de 1830. Je cite Tocqueville. « On avait à chaque fois pris la fin d'un acte pour la fin de la pièce. » Sainte-Beuve lui reproche la même erreur en 1850, cette fois, et l'attribue précisément au doctrinaire. Je cite Sainte-Beuve. « L'histoire, vue à distance, produit une illusion, la pire de toutes, celle qu'on la croit raisonnable. Cette faculté merveilleuse de sérénité, cet art souverain de conférer aux choses une apparente simplicité, une évidence décevante, et qui n'était que dans l'idée, a été une des causes principales de l'illusion qui a perdu le dernier régime. Je ne crois donc pas que l'on puisse faire confiance aux gouvernants, pas jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait des gouvernants auxquels on puisse faire tout à fait confiance. Il reste que Guizot, par ses qualités éminentes d'intelligence, sa capacité de travail, son talent d'orateur et d'écrivain, reste le personnage qui a le plus profondément marqué le brillant mouvement intellectuel de ce premier XIXe siècle, dont Fauriel avait dit qu'il serait le siècle des historiens.
C'était Monsieur Gabriel de Breuil de l'Académie française, par ailleurs membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Gabriel de Breuil venu présenter une communication sur Guizot dans le cadre de l'année de travail de l'Académie des sciences morales et politiques en cette année 2005. Peut-on faire confiance aux historiens? Gabriel de Breuil, dont vous pouvez retrouver l'intégralité de la transcription de cette communication en allant sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. L'adresse est la suivante: www.asmp.fr.